J'ai vraiment à cœur de vous encourager. Mais ça fait du bien, une fois de temps en temps, non? En fait, c'est vraiment ce que je ressens dans mon cœur, c'est un temps pour être encouragé, c'est un temps pour être relevé, c'est un temps pour relever la tête, amen. C'est un temps pour relever la tête et continuer la course. Parce que, oui, il y a des moments où pendant la course, on court, tout va bien, on semble que le souffle est là, qu'on n'a pas besoin de chercher, mais il y a d'autres moments où le souffle est là, mais on dirait que c'est tout le reste du corps qui ne veut pas suivre, et d'autres fois c'est le contraire, on dirait que la volonté y est justement, mais le corps ne veut pas, et vice-versa. Il y a des fois où si on se demande, on voit, on sait que la ligne d'arrivée est là. Et même lorsque tu entreprends une course, il y a personne qui entreprend une course sans savoir que la ligne d'arrivée est là. Sans savoir qu'il y a une fin à cette course-là. Sans savoir qu'il y a un moment où je vais franchir la ligne et je vais vouloir dire, enfin, oui, bravo, j'ai accompli, j'ai réussi ce que je m'étais engagé à faire. Mais même si on sait qu'il y a une ligne d'arrivée, il y a plusieurs moments, des fois, dans une course où on se demande si on va y arriver. On se demande tellement si on va y arriver que des fois, on doute même qu'il y a une ligne d'arrivée. Dans le sens que tu es au milieu de cette course-là, tu le sais, on s'entend, on le sait logiquement dans notre tête qu'il y a une ligne d'arrivée, mais à travers la fatigue, à travers la douleur, à travers quand on commence à réfléchir, quand on court, quand la fatigue se prend de nous, quand nos muscles ne suivent plus, c'est là qu'on commence à réfléchir et c'est là que la bataille devient ici, dans la tête, alors que ton corps te dit « c'est fini, arrête de courir ». Toi, il faut que tu dises « non, 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 je continue ». Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Jésus dit quoi? Prier. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce que notre esprit, l'esprit que Dieu nous a donné, notre esprit cherche toujours à faire la volonté de Dieu. Votre esprit va toujours vous amener à vouloir franchir cette ligne d'arrivée-là. Tout le temps. Mais notre chair, notre corps, des fois se fatigue. Des fois, elle commence à douter. Notre esprit veut bien, mais notre corps, lui, dit, est-ce que je vais y arriver? Et c'est alors que notre esprit, comme le coureur doit dire à son corps, tu te reposeras après, une fois que tu auras franchi la ligne. Nous devons dire à notre corps, à nous-mêmes, notre esprit doit prendre le contrôle et dire, non, je vais continuer la course. Parce qu'alors que tu décides de continuer la course, alors que ton esprit, que ta volonté, si on peut dire, décide de reprendre le contrôle, tu vas réaliser que dans cette course-là même, alors que tu décides de dire, OK, mon corps, non, tu continues, tranquillement, qu'est-ce qui va arriver? Oh, la douleur va être là, mais soudainement, la douleur, tu comprendras pas, mais tu vas être capable de l'endurer. Tu vas être capable de l'endurer jusqu'au moment où revient même un second souffle. Et si on persiste dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. C'est que la douleur, d'une manière qu'on ne comprend pas, alors que les gens autour de nous peuvent passer à travers les mêmes épreuves et tomber, on passe à travers les mêmes épreuves et on continue à courir. On sait que la douleur est là, mais on ne comprend pas. Ça ne nous affecte pas. On continue de courir quand même. Et parce qu'on continue de courir, on arrive, on accroche ce qu'on appelle ce second souffle-là. Ce souffle qui, contre toute attente, contre toutes les circonstances, nous aide à continuer à courir et à courir et à courir. Et mes amis, il va falloir se décider de s'accrocher si on veut arriver jusqu'à la fin. Pas seulement jusqu'à la fin de ces temps-là. Parce que Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pas seulement jusqu'à la fin de ces choses-là, mais jusqu'à la fin de nos promesses, jusqu'à la fin de ce que Dieu a déclaré pour vos vies. Amen. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ces promesses-là? Amen, on va aller en Hébreu. Hébreu chapitre 6, verset 12. Hébreu chapitre 6, 12, nous dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la quoi? Persévérance héritent des promesses. On va parler de persévérance ce matin. Nous désirons que chacun de vous monte le même zèle. Hein? Tout le monde sur la ligne de départ monte le même zèle. Tous les coureurs sont excités, ça fait pour certains des semaines, d'autres des mois, qu'ils se sont entraînés pour cette course-là, physiquement, mentalement, psychologiquement et tout. Et tous sur la ligne d'arrivée, on peut dire, la ligne de départ, pardon, montrent plus ou moins le même zèle. Hein? Ils sont excités, ils sont énervés, ils attendent tout simplement le signal de départ. Boum! On y va, on commence la course. Et vous savez, il y a ceux qui sont plus modérés, qui commencent plus lentement. Il y a ceux qui commencent en flèche, en sprinter et quelques kilomètres plus loin. Ça, OK? On ralentit, on se fatigue. Mais peu importe. Ce que la Bible nous dit ici, c'est de conserver ce même zèle. Parce que trop souvent, notre zèle va dépendre de nos circonstances. Quand on dit quelqu'un est zélé, quelqu'un est en feu, quelqu'un est motivé, mais est-ce que tu peux garder le même zèle et la même motivation, peu importe ce qui se passe autour de toi? Oui. Et non seulement oui, mais il faut. Parce qu'on est zélé, on est zélé. Mais la fatigue arrive dans les jambes. Ça va être plus dur que je pensais, finalement. Et ce zèle, cette confiance que nous avions au départ à cause de la douleur dans nos muscles, cette motivation, ce zèle, cet objectif qu'on s'était donné de dire « je vais arriver dans les 10 premiers », on se dit finalement « ben, si j'arrive, si déjà je finis la course, ça va être bon ». Pourquoi? Parce qu'on est dicté par ce qui arrive autour. Les circonstances, la douleur, peu importe ce qui arrive. Mais c'est de conserver le même zèle jusqu'à la fin. Afin que par la foi et la persévérance, vous héritiez des promesses. Est-ce que la foi, c'est suffisant? Les deux, il faut que les deux aillent de pair. Parce que la foi, c'est quoi la foi? C'est ce qui décide de partir. Amen. Tu ne te mettras pas sur la ligne d'arrivée si tu penses pas que, la ligne de départ, pardon, si tu ne penses pas que d'une certaine façon, tu es capable d'arriver au bout. Amen. Parce que si tu te dis, je vais faire un marathon, puis que ton seul objectif, c'est 40 kilomètres, puis tu te dis, mon objectif, ben, si j'en fais 20, j'arrête à la moitié, c'est correct, ben, je vais te dire, écoute, on va faire un demi-marathon, je suis courlé au complet. On se comprend? OK? Donc, tout le monde qui arrive sur la ligne de départ, à quelque part, se disent, que je sois le premier ou que je sois le dernier, je crois que je vais arriver. Parce qu'il y a beaucoup qui c'est un objectif personnel, c'est pas nécessairement des objectifs de performance, d'arriver le premier ou quoi, c'est de dire, je me donne comme objectif, je vais finir, peu importe. OK? Donc, la foi est là. La foi est là dans notre vie chrétienne. La foi est là de recevoir ce que Dieu nous a promis. Il n'y a personne qui entame sa vie chrétienne sans la foi. Personne. Parce que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Okay? Donc, à quelque part, au début, on dit « Oui, Seigneur, je crois. Oui, Seigneur, j'embarque. Oui, Seigneur, avec toi, je gagnerai la course. Je vais terminer ma course. » Mais ce qu'il faut dans cette course-là, c'est que cette foi-là dure tout le long. Et c'est ça la persévérance. Hein? La persévérance, c'est ce qui va transporter notre foi. Pour qu'après 1 kilomètre, j'ai encore la foi. Qu'après 2 kilomètres, j'ai encore la foi. Qu'après 10 kilomètres, la foi soit encore là. Ça, c'est la persévérance. Parce qu'on a parlé pendant tout le dernier mois, amen, que les choses sont là, que la vie est là, Que non seulement l'ennemi est là, mais la vie est là. Pour nous emmener des choses, pour nous ébranler, pour nous perturber, pour nous faire douter. Pourquoi, s'il est possible, de nous enlever la foi? Amen. Mais la persévérance, c'est quoi? Définition de la persévérance. Entêtement, persistant. Qualité d'une personne qui persévère, qui s'obstine, qui fait preuve d'opiniâtreté, c'est-à-dire d'obstination aussi, de constance, de ténacité, d'acharnement. S'obstine, fait preuve de constance, de ténacité, d'acharnement, persistance, entêtement. Entêtement à quoi? Entêtement à arriver jusqu'au bout, coûte que coûte. Oui, je suis obstiné. Je m'obstine à ne pas abandonner. Que oui, c'est vrai, c'est vrai. Que ce n'est pas à tous les jours que je vois les signes des promesses. Ce n'est pas à tous les jours que je vois les signes de l'accomplissement. Il y a des jours où on se lève où on se dit, « Ah, oh, wow, ça allait tellement bien hier pourtant. » Tu fais quoi ce jour-là? Est-ce que ton zèle est affecté ou tu montres le même zèle? Est-ce que la persévérance qui était avec toi hier, qui portait ta foi, la porte encore aujourd'hui? Amen. Parce que la persévérance, ça ne signifie pas qu'il n'y a jamais rien de mal qui arrive. Ça ne signifie pas qu'il n'y a jamais rien qui va te donner des informations contraires à ce que tu attends. La persévérance, ça ne signifie pas qu'à tous les jours, il fait soleil. La persévérance, c'est justement l'entêtement, la persistance, la décision ferme de continuer, peu importe la température. Peu importe ce que l'ennemi, ce que la vie, ce que les circonstances, que, peu importe ce que quiconque t'envoie, tu persévères, tu continues. Parce que ce que la Bible nous dit ici, de ce qu'on a lu en Hébreux 6, c'est quoi? La seule façon d'hériter de vos promesses, c'est oui, de démarrer par la foi, mais de continuer avec la persévérance. Hein? J'ai combattu le bon combat, dit l'apôtre Paul. J'ai gardé la foi. Ce qui dit quoi? J'ai persévéré dans la foi. J'ai été constant dans ma foi. Donc, le truc, c'est quoi? C'est pas nécessairement de partir en sprintant. C'est de trouver un rythme constant. Parce que quand ça va bien, on a tendance à vouloir aller vite. Quand on se sent bien, on va aller vite. Quand on se sent moins bien, ça va plus lentement. Mais le truc, c'est de garder un rythme constant. De ne pas se laisser avoir par nos émotions, par les circonstances ou quoi que ce soit. Que notre zèle soit constant, que notre zèle soit le même. Parce que trop souvent, on se laisse influencer par le bon comme par le moins bon. Parce que si tu te laisses influencer trop par le bon, c'est quoi? Hein, le jour, la semaine ou ce que? Cette semaine-là, tu as réussi à tous les jours, tu as suivi ton plan de lecture, tu as lu ton chapitre et tu as prié hein, à tous les jours. Et là, spirituellement, tu te sens bien et c'est normal que tu te sens bien. Donc, tu es « aïe ». Donc, tous les problèmes qui arrivent face à toi, c'est « peu importe ». Mais la semaine d'après, tu es un peu plus occupé. Tu as un peu moins de temps. Donc, tu lis un peu moins. Tu pries un peu moins. Donc là, qu'est-ce qui arrive? Alors que tu étais high, tu redescends. Mais le Dieu qui est là quand tu es ici, est-ce que c'est le même Dieu qui est là quand tu es là? Est-ce que son pouvoir, sa capacité et sa puissance est plus grande quand tu es ici que quand tu es là? C'est le même. Le problème, c'est la disposition de notre cœur. C'est qu'on y croit, puis on le voit plus facilement quand on est ici. Donc, si on y croit et on le voit plus facilement quand on est ici, on a l'impression qu'on y touche davantage que si on est là. Mais Paul a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. OK? Donc, peu importe l'état dans lequel nous sommes, Dieu reste le même. OK? Dieu ne change jamais. Donc, c'est à nous de dire à notre corps, notre esprit doit être le plus fort, de dire, tu continues à courir. Comme on voit dans les psaumes qui dit quoi? Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Hein? Pourquoi tu t'abats, mon âme? Okay? Lève-toi, réjouis-toi. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il prend le contrôle. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme on a mentionné, notre esprit, l'esprit qu'on a reçu de Dieu, veut toujours nous emmener non seulement à faire la volonté de Dieu, mais à continuer cette course-là, parce qu'il sait que dans cette course-là que le Seigneur a placée devant nous, c'est là où sont les bénédictions que le Seigneur a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Donc, c'est de courir, de continuer, de persister, de persévérer. Amen. Toujours en Hébreux, chapitre 10, cette fois. Hébreux 10, verset 35, nous dit, « N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez, au verset 36, besoin de persévérance. » Pourquoi? Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Wow! Que des fois, on se dit ça comme ça. On se dit, mais Seigneur, j'ai tout fait ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? J'ai fait ci, j'ai fait ça. Je ne sais plus quoi faire. Okay? Mais vous avez besoin de persévérance pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, après avoir fait tout ce que Dieu vous demandait de faire, après avoir fait tout ce que vous ressentiez dans votre cœur que le Seigneur vous demandait de faire, vous avez besoin de persévérance, non seulement pour vous rendre à ce point-là, mais après ce point-là, vous avez encore besoin de persévérance afin de pouvoir toucher à ce que Dieu vous a promis. Hein? Et quand la Bible dit en Timothée que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Comme on a déjà dit, c'est quoi? C'est la foi, pas nécessairement les gens arrêteront carrément de croire en Dieu. Mais tu sais, des fois, c'est pas juste d'arrêter carrément de croire en Dieu. C'est que quelque part, au fond, nous, on sait que Dieu est vrai. On sait que Dieu existe. Mais il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir. Pourquoi? Parce que les circonstances et les choses dans nos vies parlent trop fort. Donc, on n'arrive pas à toucher à ce que la parole de Dieu nous dit, mais on sait quand même au fond de nous que Dieu existe. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On court après un autre évangile. On court après une autre parole qui pourrait mieux expliquer peut-être ce qu'on est en train de vivre. Et c'est exactement ce que Paul dit en Galates. Au chapitre 1, Galates 1, au verset 6, l'apôtre Paul dit ça aux Galates. Il dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Parce qu'un autre évangile, c'est quoi? C'est une autre bonne nouvelle. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, on se détourne de ce qu'on a entendu pour s'accrocher peut-être à une autre bonne nouvelle qui pourrait peut-être mieux concorder avec ce qu'on vit. Et c'est souvent ce qui se passe, malheureusement. Les gens interprètent la parole de Dieu à la lumière de ce qu'ils vivent. parce qu'on n'est pas capable de prendre l'autorité dans nos circonstances pour que nos circonstances soient à la lumière de la parole de Dieu, on fait le contraire. On interprète la parole de Dieu à la lumière de ce qu'on vit. Mais si on fait ça, alors on fait de Christ un menteur. Parce qu'il nous a promis tellement de choses que malheureusement, trop d'entre nous ne vivons pas. Donc, à ce moment-là, il doit y avoir une raison. Mais au lieu de rester fixé, de rester collé à la parole de Dieu, malheureusement, trop de gens se trouvent des raisons, justement. Ils vont trouver des versets pour appuyer ces raisons. Il faut persévérer. Combien de temps? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu l'ailles. Jusqu'à ce que tu y touches. Jusqu'à ce que tu le vois. Jusqu'à ce que tu l'obtiennes. OK? Tu vas me dire, oui, mais pourquoi il y en a que ça prend une semaine? Pourquoi il y en a que ça prend une décennie? Pourquoi ça a pris 9 ans avant qu'il se retrouve? Tu peux passer beaucoup d'heures sans dormir à te poser la question, là. OK? Oui, mais pourquoi, Seigneur, pendant toutes ces 9 années-là, il a fallu qu'on passe à travers ça? Pourquoi tu n'étais pas capable de faire en sorte qu'après 1 mois, 1 an, on se retrouve? Pourquoi le peuple d'Israël est resté 400 ans dans l'esclavage avant que Dieu dise, j'ai entendu les cris de mon peuple? Pourquoi 400 ans? Pourquoi? On peut passer beaucoup de nuits blanches à se poser des pourquoi. Il y a des choses, des fois, qu'on est mieux de laisser à Dieu. OK? Parce que peu importe la raison, la réalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'ils sont ensemble. OK? C'est qu'ils ont persévéré. C'est comme elle me racontait, hein, que pendant tout ce temps-là, elle allait à l'église. Elle continuait d'aller à l'église. Elle continuait de prier à l'église. Elle continuait de croire qu'un jour elle allait être réunie. Et les gens se moquaient d'elle. Et les gens lui disaient, oublie ça. Les gens lui disaient, écoute, après toutes ces années-là, ton mari s'est trouvé quelqu'un d'autre. Après toutes ces années-là, comment vous pensez vraiment que vous allez être réunis ensemble? Mais à tous les jours, à chaque fois, elle retournait à l'église et elle priait à l'église. C'est la vraie vie, ça. OK? Je passe une semaine en Haïti sans voir ma femme, puis c'est long, hein? 9 ans? Il doit avoir un autre terme que long. OK? Mais tu fais quoi? Tu persévères. Parce que si tu abandonnes, tu n'as plus rien. Si tu abandonnes, tu es sûr de plus avoir quoi que ce soit. La seule manière d'être sûr d'échouer, c'est d'abandonner. Mais on continue. Pourquoi est-ce qu'il faut que vous vous battiez aujourd'hui? Ah, je ne sais pas ce que vous vivez dans chacune de vos vies. Peut-être que je n'avais pas eu à passer à travers des choses comme ça, mais peu importe, ce n'est pas une question de comparaison. Il y a des choses qui sont personnelles à nous, qui des fois sont des défis pour chacun d'entre nous. Amen? Mais pourquoi est-ce que vous croyez ce matin? Pourquoi est-ce que vos muscles ce matin sont peut-être fatigués dernièrement? Pourquoi est-ce que peut-être dernièrement vous vous êtes mis à vous poser la question, est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce qu'un jour, je vais vraiment voir ça? Oh Seigneur, je veux croire en toi, mais ça fait tellement longtemps. Parce que des fois, quand on se pose trop de ces questions-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Abraham. On trouve une alternative. Parce qu'Abraham, écoute, il est parti, Dieu lui a dit, écoute, tu seras le père d'une multitude de nations. Et il lui a dit ça à l'âge de 75 ans, alors qu'il n'avait pas d'enfant. Et Abraham, évidemment, lui dit, écoute, je m'en vais comme ça, quel signe que tu vas me donner? Si ça continue comme ça, mon héritier, ça va être mon serviteur. Mais Dieu lui a dit, non. Ton héritier va sortir de ton sein. Ah, il va sortir de moi. OK, il est parti avec ça. Il va sortir de moi. Mais plus tard, Dieu a dit, lui confirmer, écoute, non seulement il va sortir de toi, mais c'est ta femme, là. OK, à un moment donné. Mais vous savez à travers quelle étape ils ont passé? Pendant combien d'années? 25 ans. La première fois où Dieu a dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude de nations, que tu auras une grande postérité. Abraham avait 75 ans. Lorsqu'Isaac est né, Abraham avait 100 ans. 25 ans. 25 ans à croire, 25 ans à dire oui, j'y crois, oui, je t'aime, Seigneur, amen. Et qui voit dans sa tête, il voit le nombre de nations, Dieu l'amène dehors et dit, regarde dans le ciel, si t'es capable de compter les étoiles, ça va être ça ta postérité. Regarde le sable de la mer, amen, ça va être ça si t'es capable de compter. Et là, la joie est dans son cœur, amen. Mais à travers les années, lui, il commence à être frustré, sa femme commence à être frustrée. Regarde, je m'en vais comme ça, sans enfant, va prendre la servante. OK, go, on y va. De toute façon, Dieu a dit qu'elle aime donner une femme et qu'elle aime donner un enfant plutôt de mon sein, donc ça va être la même chose. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Hein? L'ange vient, Dieu, fidèle, comme il est fidèle, Dieu revient à Abraham à plusieurs places, à plusieurs fois pendant ces 25 ans-là. Dieu a répété son alliance avec Abraham. Et finalement, il lui dit, écoute, tu vas vraiment donner naissance à ta femme. Et là, qu'est-ce que la Bible nous dit? Abraham rit. Hein, vous savez, ça a l'air de quoi? C'est, écoute, à la même époque, l'année prochaine, ta femme va donner naissance. Hein? Fini. C'est comme, hein? Ouais, c'est correct, là. Ça fait 20 ans. Et sa femme aussi? Ah? Pourquoi est-ce que ta femme a ri? Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Non, j'ai pas ri. Hein. Eh bien, Abraham, il a dit, écoute, je ris, j'y crois plus. Je ris parce que j'y crois plus. J'y crois plus parce que mon corps est trop usé, ma femme, trop usée. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on vient à un point dans nos vies où on part avec le zèle. Amen. On part avec le zèle. Mais l'eau coule sous les ponts, hein. Les jours passent, les semaines passent, les années passent, les mois et tout. Et là, à un moment donné, le zèle diminue un petit peu. On se fatigue. Et la promesse, la ligne d'arrivée qui semblait si proche pourtant, on dirait, elle est rendue non seulement loin, mais inatteignable. Et on entend la promesse. Et là, des fois, il y a des hommes, des femmes de Dieu qui peuvent revenir. Puis là, boum, on te donne une parole. Confirme la parole que le Seigneur t'a déjà donnée. Mais t'es rendu à la troisième, à la quatrième fois. Puis tu fais, écoute, là, hein. Si c'était vraiment de Dieu, ça serait déjà accompli. Si c'était vraiment de Dieu, je l'aurais déjà vu, ça serait déjà arrivé. Pourquoi est-ce que ça si? Pourquoi est-ce que ça tarde? Pourquoi est-ce que... Donc on vient à se moquer de la promesse. À perdre espoir, quoi. Mais vous savez ce que je trouve beau là-dedans? C'est que même si eux ont fait... Ce qui est arrivé, c'est quoi? Il est arrivé ce que Dieu avait dit qu'elle arrivait. Et lorsqu'on regarde dans Romains 4, lorsqu'on regarde dans Hébreux, lorsqu'on lit, amen, à Hébreux chapitre 11, qui nous parle de la foi de nos pères, quand ça nous parle d'Abraham, quand ça nous parle de Sarah, je lis ça des fois, je me dis, quand je lis dans Genèse, c'est pas tout à fait ça qui est arrivé, hein. Abraham ne douta point dans son incrédulité, amen, mais crut à la promesse. Sarah, amen, par la foi, Sarah a donné naissance à une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui faisait la promesse et tout. Ah ouais, ok. Moi, je me rappelle d'une Sarah qui a fait... Moi, je me rappelle d'un Abraham qui a fait... Pff. Ben oui, il y a des étapes. Il y a des étapes. Il y a des étapes dans la foi. Il y a des étapes dans notre course, dans notre marche. Il y a des étapes dans la persévérance. Et ce que Hébreux a décidé d'enregistrer, de garder, c'est quoi? Le résultat, la fin, c'est qu'ils ont gardé la foi. C'est qu'après le rire, après le pfff, ils sont revenus dans la foi. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que Dieu enregistre la même chose pour vous. C'est qu'alors que nous, des fois, hein, moi je lis ça et je me dis, je lis en hébreu, je retourne dans Genèse et je lis, je dis, Seigneur, c'est quoi alors? Ça ne marche pas. Je ne vois pas beaucoup de foi, moi, en Genèse. Là. Mais Dieu dit non. Ils ont continué. Ils ont persisté. Ils ont persévéré. Et c'est la même chose avec nous. La persévérance, ça veut jamais dire que, ça veut pas dire que jamais, à un moment donné, oh, tu t'assois là. Là, je suis fatigué. Il faut que j'arrête, je m'assois. OK? Si tu décides de rester assis, là, tu as abandonné. Mais tu peux te relever aussi. Et continuer. Amen. Continuer. Et continuer. Et ce que Dieu a décidé de mettre ici, c'est quoi? C'est un homme et une femme comme vous et moi, que oui, ont passé à travers leur moment de doute. Oui, ont passé à travers leur moment d'incrédulité. Mais le final, la conclusion de ça, c'est quoi? C'est qu'ils ont cru en Dieu. C'est qu'ils ont décidé de croire que ce que Dieu avait promis, il avait plus que le pouvoir de l'accomplir. Et ça doit être le même point final pour nous, mes amis. C'est que peu importe les choses que nous traversons, peu importe si un jour vous êtes fatigué ou non, ok, oui, le Seigneur, vous voyez, il n'y a pas écrit en hébreu toutes les fois où hein, ils n'ont pas repris de dire, oui, Sarah a ri, Abraham a ri, puis à un moment donné, Dieu était fâché contre eux, Dieu oh, a fait eu dire, ah, parce que vous n'avez pas cru, dans le fond, vous n'enverrez pas votre enfant. Non. Mais qu'est-ce que l'ange de l'Éternel dit à Abraham? Il dit, pourquoi est-ce que Sarah a ri? Et continue en disant, la main, y a-t-il quoi que ce soit qui soit étonnant de la part de Dieu? Et je vous pose la question ce matin. Pourquoi tu fais pfff? Y a-t-il quoi que ce soit qui soit étonnant de la part de Dieu? Que lorsqu'on voit les signes, des miracles, des prodiges, oui, on est étonné. Amen. On est étonné. Que lorsque les disciples sont allés, Jésus leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Ils sont allés chasser les démons, sont revenus tout excités, comme, waouh, les démons nous sont obéis. Nous obéissent, nous sont soumis. Jésus dit, hey, il n'y a rien là. Le plus important, c'est que soyez nés de nouveau. Le plus important, c'est que votre nom soit écrit dans le livre de la vie. Il n'y a rien d'étonnant, je vous l'ai dit. Allez, je vous ai donné l'autorité, allez. Et c'est ce qu'il dit à Abraham. Il dit, y a-t-il quoi que ce soit qui soit étonnant de la part de Dieu? Et la réponse, évidemment, c'est quoi? C'est non, il n'y a rien. Il n'y a rien, non seulement qui soit étonnant de la part de Dieu, mais il n'y a rien qui soit impossible de la part de Dieu. Est-ce qu'il y a des choses qui nous sont impossibles? Oh, que oui! Mais à Dieu, tout est possible. OK? Donc, cette course-là que tu as entamée, que ce soit la semaine passée, que ce soit des années passées, crois que si cette course-là est de Dieu, crois que si cette course-là est selon la volonté de Dieu, crois que si tu cours après les choses de Dieu, tu dois croire que tu vaincras. Tu dois croire que tu vas atteindre. Tu dois croire que tu vas arriver. Tu dois croire que tu vas voir. Amen. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que oui, des fois, waouh. J'ose imaginer. 9 ans, c'est long. Il y a des jours où tu es ici, hein? Il y a des jours où tu as prié, des jours que tu as réussi à lui parler au téléphone, tu es là. Il y a des fois où ça faisait quoi? Un mois, hein? Des semaines sans être capable de se parler au téléphone. Tu fais quoi? Ça doit être plus lourd un peu à porter. Mais même si c'est plus lourd, ton attitude ne doit pas changer. OK? Et c'est là que des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on doit saisir ces choses-là. Qu'on a le contrôle sur notre attitude. On doit comprendre, par exemple, que ce n'est pas ce que les gens disent de nous qui nous font mal. C'est comment on reçoit ce que les gens disent de nous qui nous fait mal. OK? Parce que quelqu'un peut dire la chose la plus méchante au monde. Mais si tu fais... Et qu'à place, tu fais quoi? Tu fais ce que la Bible dit, ne pas rendre le mal pour le mal, mais que tu pries. À ce moment-là, tu reçois le cœur de Dieu, puis tu dis, ouais, cette personne-là doit avoir mal pour vouloir me faire mal. Mais si tu le reçois et que dans ton identité fragile, tu dis, est-ce que c'est vrai ce que la personne-là vient de dire de moi? Là, tu as dit, oui, fais-moi mal. Ça se passe pas, ça se passe comme ça là, ok? On s'entend à une fraction de seconde. C'est pas, t'es pas assis et dire, est-ce que je vais recevoir ce que cette personne-là m'a dit ou je ne vais pas recevoir? You know? Non. C'est pour ça, justement, que c'est important d'être rempli de la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Parce que plus nous sommes remplis de la parole, plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous sommes remplis de la vérité de la parole de Dieu, lorsqu'on entend des mensonges comme ça, ça fait tout de suite « hein ». Et ça fait « non, merci ». Je vais continuer. Okay? Donc, pareillement. Tu sais, on doit prendre le contrôle sur nos émotions, sur notre corps. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, bon, je dois avouer, ça m'est déjà arrivé. Okay? Vous savez que tu travailles, mais il y a longtemps de ça. Okay? Là, je ne fais plus ça. Tu travailles, puis le matin, ça ne tente pas d'aller travailler. Ça ne tente pas d'aller travailler. Ça ne tente pas d'aller travailler et comme par hasard, pour bien aller, tu as un petit début de... Hein, tu reniffes un petit peu. Juste pour dire. Oh, ça ne tente pas. Ben écoute, je ne vais pas mentir, c'est vrai. Non, mais je parle de moi, là, OK? Et là, c'est... Ouais. Je peux pas rentrer travailler ce matin. Ouais. Ah oui, t'es un petit rire, je l'entends. Oui, c'est dur de pas l'entendre, hein? Mais c'est curieux. Comme, à seconde que tu raccroches le téléphone... Hein? Il est parti tout d'un coup. Hein? Tu files mieux. Je ne sais pas pourquoi. Miracle. OK? Et vous savez, si à ces moments-là, nous avions décidé, ou plutôt j'avais décidé, de dire « tu te lèves quand même, tu t'en vas travailler », je suis certain qu'en arrivant au travail, ça aurait fait la même chose. De dire au début, c'est comme « ah oui, tu renifles un petit peu », mais à un moment donné, tu as pris le contrôle, tu as dit « hey non, hey, tu te lèves, va travailler ». Parce que c'est comme magique, là. Boum! Tu raccroches le téléphone, c'est fini. Tous les symptômes sont finis. C'est comme, waouh, ah, c'est dommage, hein, j'aurais pu aller finalement travailler. Je me sens bien. Il faut apprendre à prendre le contrôle sur nos émotions. Okay? On se laisse beaucoup trop diriger par nos émotions. Et parce qu'on se laisse diriger par nos émotions, ça nous donne l'impression que les données ont changé, que la situation change. Mais nos émotions pervertissent notre perception. Et parce qu'on se base sur des émotions qui déjà ne sont pas basées sur des bonnes données, donc on analyse les choses avec la mauvaise équation. Hein? Ce qui fait en sorte que quoi? Une vérité qui, en réalité, n'a jamais changé, parce que nos émotions nous disent autrement, ben, on finit par avoir ce qu'on croit. Ok? Tu finis par avoir ce à quoi tu crois. Fait que je te pose la question ce matin. En quoi est-ce que tu crois? En quoi est-ce que tu décides de croire? Parce que c'est une décision. Parce qu'il y a cette... Parce que des fois, on pense, puis on aimerait bien des fois que l'Esprit Saint, vous savez, nous dirige, pas nous dirige parce qu'il le fait, mais décide pour nous. Fasse les choses pour nous. Qu'à un moment donné, je vais me lever, puis là, je sais pas pourquoi, je serai pas capable de me contrôler, mais le Saint-Esprit va m'emmener à faire quelque chose. Le Saint-Esprit va faire en sorte que là, j'arrête telle chose que je voulais arrêter depuis des années. Le Saint-Esprit va... Puis là, on dit, mais pourquoi Dieu, tu le fais pas? Ça fait des années que je te prie pour ça. Ça fait des années que je te prie pour me libérer de ci. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? OK. Peut-être qu'il faut que tu y crois. Et si tu y crois, fais le pas de foi qui va avec. Mais ce que la Bible nous dit, c'est pas parce que tu décides de faire le pas de foi qui arrivera rien pour essayer de te faire croire que ce n'est pas vrai. Hein? Donc, alors que tu décides de faire le pas de foi, alors que tu décides de franchir la ligne de départ et de commencer cette course vers ce que tu veux, il faut que tu sois décidé à persévérer, à continuer jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Peu importe ce qui se passe autour. Je vais inviter l'équipe de louange à venir. Et pendant ce temps-là, on va tourner en Marc, chapitre 4. Je veux qu'on lise ensemble la parabole du semeur. Hein, Marc, chapitre 4, où on voit... où on voit la parabole du semeur, où on voit Jésus qui enseigne à ses disciples et qui leur dit, le semeur s'en va semer, et là, la semence que le semeur envoie tombe sur différents endroits. Il y a de la semence qui tombe sur le bord du chemin, la semence qui tombe dans les endroits pierreux, il y en a une certaine autre semence, une partie de la semence qui tombe dans les épines, et une autre partie de la semence qui tombe dans la bonne terre. Amen. Et là, ça nous amène au verset, on va aller au verset 13, okay, en Marc chapitre 4. Au verset 13. Donc, c'est Jésus qui parle à ses disciples, qui s'en va pour leur expliquer, en fait, la signification de la parabole qu'il vient de leur enseigner. Il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Donc, verset 14, le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Les uns sont sur le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, on va dire ensemble, aussitôt, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Okay, c'est pas très long, là. C'est comme, wow. Le semeur, c'est celui qui sème la parole, que ce soit moi qui prêche la parole, que ce soit vous qui partagez la parole avec quelqu'un de votre entourage. Les gens, il y en a certains qui sont sur le bord du chemin, c'est-à-dire quoi? Qu'ils entendent la parole, qu'elle arrive à leurs oreilles, mais aussitôt l'ennemi vient l'enlever. Pour même pas que ça prenne racine, même pas que ça porte du fruit. Ensuite de ça, on est où? Au verset 16. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance, ou on pourrait dire de persévérance. Il manque de persévérance et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Hein? Lorsque votre foi maintenant vous amène à... Lorsque votre nouvelle foi vous amène à vivre des choses que vous n'aviez pas vécues auparavant, à recevoir que ce soit des commentaires ou des choses alentour de vous... que vous ne viviez pas auparavant. Il y en a que la parole de Dieu nous dit, ils n'ont pas eu le temps d'établir de racines dans la parole, dans la foi en Dieu, que lorsque ces événements-là arrivent, ils ne savent pas comment les gérer et ça les détourne de cette foi-là. Ils manquent de persévérance. D'autres reçoivent la même semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, et l'invasion des autres convoitises étouffe la parole et la rend infructueuse. Mais verset 20, d'autres la reçoivent dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. À 30, 60 et 100 pour un. Sur ces quatre terres, il y a une terre qui finit par porter du fruit. Et sur les trois terres qui ne portent pas de fruit... Il y en a seulement une, selon ce qu'on vient de lire, qui est directement reliée à l'œuvre de l'ennemi. OK? Il y en a une qui est directement reliée, c'est nommé Satan vient aussitôt. Mais deux sur trois sont reliés à quoi? Aux tribulations. Aux défis, aux épreuves, aux problèmes, aux soucis de ce siècle. Amen. Aux soucis, à l'inquiétude. Que ce n'est pas nécessairement l'ennemi qui joue là-dedans. OK? Que si tu t'inquiètes à savoir comment tu vas payer ton loyer ou faire ci ou faire ça... C'est pas Satan là, qui est directement relié à ça nécessairement. Mais c'est quoi le souci? La convoitise. Le but d'avoir plus. Plus pour quoi? Plus pour... Souvent c'est quoi? C'est juste pour nous rassurer. Donc je vois ici que deux sur trois, en fait... dépendent de nous. Okay? Deux sur trois dépendent de comment est-ce qu'on réagit aux tribulations. Deux sur trois dépendent de comment est-ce qu'on réagit aux soucis de ce monde. À la convoitise, comment est-ce qu'on est en mesure de gérer, entre guillemets, notre propre convoitise. la convoitise des richesses, la Bible nous dit. Que des fois, on est tellement inquiet, on est tellement anxieux, on est tellement détourné de la parole de Dieu qu'on va courir après les choses de ce monde. Et des fois, on se dit, pourquoi est-ce que dans les autres pays, on voit des miracles et tout ça, et ici? Je ne sais pas. Il doit y avoir plusieurs raisons. Mais je crois qu'une des raisons, c'est que dans certains pays, ils n'ont pas autant d'options que nous avons. C'est-à-dire quoi ça? Ils n'ont pas autant d'alternatives pour arriver à leur fin que nous avons ici. Donc ça veut dire quoi? Quand tu n'as pas d'option, la seule option qui te reste, c'est Dieu. Et si la seule option qui te reste, c'est Dieu, ça veut dire que si Dieu agit pas, tu n'y arrives pas. Mais mes amis, c'est ça la base de miracle. La base de miracle, c'est lorsque ta possibilité, ta capacité a pris fin et ensuite vient l'impossibilité de Dieu. Mais le problème, c'est qu'on reste trop dans notre capacité. On reste trop dans la capacité du système dans lequel on vit. Donc, lorsque ça fait un mois, un kilomètre, deux kilomètres que je cours et que j'attends que la promesse arrive, j'ai ici à côté qui peut me donner la même chose que Dieu m'a promis. J'ai ici de l'autre côté qui peut m'emmener la même chose que Dieu m'a promis. J'ai la servante qui est là, qui peut me donner une postérité. Amen. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cours. Et à un moment donné, parce que ça fait trop longtemps que je cours, parce que j'ai perdu espoir que la ligne d'arrivée arrive, je dévie de ma course et je vais m'accrocher à quelque chose d'autre. C'est pas pour rien que Jésus a dit que ça serait difficile pour ceux qui ont beaucoup de richesses d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pas parce que les riches sont mauvais, sont méchants. Parce que quand tu as beaucoup, tu as tendance à t'appuyer sur ce que tu as. Amen. C'est juste ça. Et lorsqu'il a demandé à cet homme riche d'aller, de vendre tout ce qu'il avait et de le suivre, il a vu justement le cœur. La Bible nous dit que cet homme-là est parti triste. Pourquoi? Parce qu'il possédait beaucoup. Hein? Beaucoup de ces choses-là qui dépendent de nous. Jésus a prié pour Pierre, pourquoi? Pour que sa foi ne défaille point, parce que l'ennemi vient, comme on a vu, aussitôt, il attaque. Mais encore une fois, il y a deux terres sur trois qui, je crois, sont en notre, comment dire, capacité d'influencer. OK? De décider aussitôt qu'on va s'enraciner dans la parole de Dieu. Et c'est là que c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que famille, d'accompagner ces gens-là, d'accompagner les personnes qui acceptent le Seigneur, là. Amen. Parce que l'ennemi vient, l'ennemi essaye d'enlever, parce que les soucis sont là, parce que s'ils ne sont pas assez enracinés, la tempête, le vent va venir. Et c'est pour ça que c'est important. C'est important de s'entourer, c'est important de les entourer. Alléluia. Ce moment, j'aimerais vous demander, juste pour quelques instants, de fermer les yeux, OK? Juste fermer les yeux. Pourquoi? Dans le simple but de... Je veux que vous preniez le temps de réfléchir. De penser, je ne sais pas où est-ce que vous êtes en ce moment, c'est-à-dire dans votre vie. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes présentement dans la course à laquelle le Seigneur vous a appelé. Parce que le Seigneur nous a appelés tous ensemble à la même course. Amen. Mais il nous a tous appelés individuellement en tant que membres de son corps à une course individuelle qui est vraiment individuelle, justement, à chacun d'entre nous. Et vous en êtes où dans cette course-là? Vous en êtes où? Pas dans un sens de comment est-ce que je me mesure, de comment est-ce que je fais bien ou quoi que ce soit. Non, pas dans ce sens-là. Mais vous en êtes où par rapport même jusqu'à votre foi? Vous en êtes où par rapport à ce que vous voyez l'accomplissement de ce que Dieu a mis dans votre cœur? Parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs. Et la réalité, c'est qu'il met des rêves, il met des choses dans chacun d'entre nos cœurs. Et il y en a certains d'entre nous que peut-être ce matin, vous pouvez vous dire, oui, moi, je peux rendre grâce à Dieu parce que j'y ai touché. Oui, moi, je peux rendre grâce à Dieu parce que je l'ai vu. Oui, moi, je peux rendre grâce à Dieu parce que la semaine dernière, il m'a confirmé encore une fois sa parole. Amen. Mais peut-être qu'il y en a certains d'entre vous que vous êtes en train de regarder à gauche, à droite pour chercher une autre option. Peut-être que vous êtes en train de chercher à gauche, à droite pour une servante. Vous venez peut-être juste de passer à travers l'époque, la période où ce que vous avez fait. Mais ce matin, je vous dis que raccrochez-vous. Raccrochez-vous. Relevez la tête vers le ciel, regardez le Seigneur. Parce qu'il est fidèle. Amen. Oh, mes amis, j'aimerais vous dire pourquoi est-ce que ça prend un an, pourquoi est-ce que ça en prend deux, pourquoi est-ce que ça en prend neuf. J'ai pas la réponse pour ça. Amen. J'aimerais vous le dire pour vous rassurer. Pourquoi ça arrive à telle personne et ça arrive pas à moi? Pourquoi ça, ça m'arrive à moi et ça arrive pas à d'autres? Je sais pas ça. Okay? Mais il faut comprendre aujourd'hui que c'est pas ça les questions qui sont importantes. Parce que comme on a souvent dit, l'important, c'est pas la tempête. C'est celui qui est avec vous pendant la tempête. L'important, c'est pas le feu, mais bien celui qui se tient avec vous dans le feu. Pour que peu importe ce qui arrive, vous allez pouvoir sortir de cette fournaise-là. Sortir de cette fournaise-là, sans chaleur, sans même sentir la fumée, mais aller chercher ce que la parole de Dieu vous promet. Chercher ce que Dieu vous promet. Et la chose qui va vous sauver, mes amis, c'est quoi? C'est d'apprendre à reconnaître la voix de Dieu pour vous-même. Ça va être d'apprendre à avoir cette relation-là avec Dieu pour vous-même. Ça va être d'apprendre à avoir cette relation avec Dieu qui fait en sorte que parce que je connais Dieu, je sais que je vais continuer, parce que je sais que je vais atteindre. Parce que je connais Dieu, peu importe ce qu'une personne m'a dit, peu importe ce que ma mère m'a dit, ma soeur m'a dit, mon frère m'a dit, mon voisin m'a dit, peu importe ce que quiconque peut me dire, parce que je connais Dieu, je décide de continuer. Parce que je connais Dieu, je sais qu'il est encore avec moi sur cette route. Parce que je connais la voix de Dieu, je sais que ce qui se passe à gauche, à droite, c'est pas pour moi, donc je continue. Alors que tout le monde me dit, mais pourquoi t'as pas pris ce qui était à gauche? Pourquoi t'as pas pris ce qui était à droite? C'était tellement bien. Parce que je connais Dieu, je peux dire non à ces choses-là. Je peux dire non, même si tout le monde me dit, t'es fou de dire non, t'aurais dû dire oui. Mais parce que je connais Dieu, je continue. Non pas par la vue, non pas par mes sentiments, mais par la foi. La foi que si je persévère, si je continue à le louer, à lui rendre grâce en toutes circonstances, amen, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aime Dieu, et parce que je connais Dieu, je peux dire avec foi et détermination et acharnement ce matin et constance que je vais toucher à ma promesse. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Et justement, avant de quitter ce matin, je vais donner l'opportunité à ceux qui sont ici ce matin et qui se disent pour la première fois, oui, je veux te connaître pour de vrai. OK? Je veux te connaître pour de vrai. Ça me dérange pas si ça fait des années que tu vas à l'église ou quoi que ce soit. Je veux ce matin, si tu veux répondre à cette question, à cet appel de Dieu qui dit, oui, je veux te connaître pour de vrai. Parce que c'est la connaissance, encore une fois, de Dieu qui nous empêche d'être ballottés par tout ce qui arrive dans notre vie. C'est la connaissance de Dieu qui nous fait en sorte que, waouh, cette paix qu'on n'arrive même pas nous-mêmes à expliquer est là dans toutes circonstances et qu'on continue avec joie, on continue avec foi, on continue en le louant, peu importe ce qui arrive. Et si tu te dis ce matin, je veux avoir cette assurance. Je veux avoir cette assurance que non seulement si je connais Christ, si je donne ma vie à Christ, si je mets ma foi en lui, non seulement je vais aller au ciel, non seulement j'ai la vie éternelle, mais je veux avoir cette assurance qu'avec Dieu dans ma vie, amen, peu importe la tempête, je vais continuer. Peu importe les circonstances, non seulement je vais continuer, mais je vais gagner. Je serai plus que vainqueur. Je veux avoir cette assurance-là. Donc, si c'est vous ce matin, si vous voulez avoir pour la première fois cette assurance, si vous voulez dire pour la première fois oui, 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 Seigneur. C'est très simple, tout ce que je vous demande, c'est maintenant. Maintenant, maintenant, là où vous êtes, levez la main si c'est vous. Amen. Levez la main si c'est vous. Levez la main si c'est vous. Amen. 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 Une autre personne ici, deux personnes là. Amen. Comme j'ai dit, c'est peu importe où vous êtes rendu dans cette course-là. Parce que comme Jésus, comme on a enregistré dans le livre d'Hébreux, c'est pas les manquements que Hébreux a enregistrés. C'est pas les fois où ils sont tombés que Hébreux a enregistré. Amen. Hébreux a enregistré le jour où ils ont franchi la ligne d'arrivée. Hébreux a enregistré le jour où ils ont obtenu les promesses. Que peu, aussi petite que peut-être a été leur foi, le livre d'Hébreux a dit que par leur foi et leur persévérance, ils ont hérité de ces promesses-là. Donc on va se lever ensemble ce matin. Amen. Amen, 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 amen. 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 Je vais inviter les personnes qui ont levé la main à venir, si vous voulez venir avec moi devant. Et je vais inviter tous ceux qui auraient dû lever la main à prier là où vous êtes. Amen. C'est pas grave. Aucune. Okay, l'important, c'est quoi? C'est ici. Amen. C'est le cœur. Et si vous faites cette prière là où vous êtes en ce moment, si vous le faites avec foi, amen, croyez que Dieu entend et que Dieu va répondre. Alléluia. Alors, donc, on va prier ensemble ce matin. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour ton amour. Que par ton amour, tu es allé à la croix pour moi. Tu es mort pour mes péchés. Tu es ressuscité. Que tu es maintenant assis à la droite de Dieu. Et que par ma foi en toi, tu me donnes une vie nouvelle. Tu me donnes la vie éternelle. Et ce matin, je confesse que tu es Dieu, que tu es mon Seigneur, que tu es mon Maître, et je te donne ma vie. Que aujourd'hui, je décide de me tenir devant la ligne de départ, de courir avec zèle et de conserver le même zèle jusqu'à la fin. Parce que je sais que ce ne sera pas par mes propres forces, mais parce que toi-même, Seigneur Jésus, tu cours avec moi. Alors je te remercie, je t'aime, je te rends grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen.